L'auberge espagnole de ce mardi 12 juin va nous emmener tout d'abord au Café Climat ce soir qui vous propose un rendez-vous pour poser la question chauffe-eau solaire ou thermodynamique. Nicolas Catin de l'Agence locale de l'énergie sera avec nous le temps qu'il arrive et il est accompagné d'un intervenant du Café Climat de ce soir, Pierre Chalumeau, installateur chauffagiste et formateur gérant de l'entreprise Solaire Pro. Nicolas Catin n'est pas encore avec nous, peut-être est-il perdu entre les rails du tramway, mais c'est vrai que l'Agence locale de l'énergie a déménagé, elle n'est plus sur l'esplanade, mais elle est place Paul Bec numéro 2, donc à Antigone, c'est un peu plus loin. En tout cas, en l'attendant, eh bien, on est avec Pierre Chalumeau, bonjour.
Bonjour.
Alors ce soir, la question se pose, chauffe-eau solaire ou thermodynamique, peut-être déjà, bah, pour ceux qui nous écoutent et qui, chauffe-eau solaire, tout le monde comprend, thermodynamique, tout le monde ne comprend peut-être pas.
Alors justement, c'est que ce soir, ça va être assez intéressant, je vous invite vraiment à venir, parce qu'il va y avoir deux diaporamas, qui va présenter en fait le chauffe-eau solaire. Alors c'est une alternative pour l'eau chaude et l'alternative avec le thermodynamique qui est fait avec un système de pompe à chaleur. Donc il y a un deuxième intervenant qui sera là. Donc moi-même, alors je suis sur le chauffe-eau solaire thermique, donc je ne vais pas trop vous parler du thermodynamique qui c'est vrai est un super chauffe-eau électrique, mais bon, on verra peut-être qu'il y a quelques éléments qui peuvent freiner la chose. Et donc sur le chauffe-eau solaire, bah, c'est une énergie tout d'abord qui n'est pas nouvelle. Hein. C'est une énergie qui est vieille comme le monde. Alors vous allez avoir ce soir la présentation bien sûr du fonctionnement, des schémas différents que l'on peut avoir sur la pose d'un chauffe-eau solaire qui peut s'adapter à toutes les énergies en complément. Hein, les énergies sont complémentaires du solaire hein, et vous, sur la région vous pouvez avoir à peu près 70% d'autonomie et surtout parler aussi donc de l'efficacité de ce chauffe-eau solaire qui va permettre justement de pallier à toutes les formes d'énergie.
Alors ça c'est une technologie que toi tu dans laquelle tu t'es professionnalisé il y a déjà fort longtemps, tu faisais partie des pionniers, ce qui explique peut-être le fait qu'aujourd'hui tu sois aussi formateur en la matière.
Oui c'est vrai, j'ai deux casquettes, alors c'est vrai que je forme d'ailleurs même mes professionnels, les professionnels, donc quasiment mes concurrents, mais c'est intéressant parce que ça permet justement de pousser le bouchon un peu plus loin et d'affiner justement toutes les techniques actuelles. Et donc pour finir aussi sur ce soir, ce que je voulais dire, c'est que le chauffe-eau solaire, il faut dire qu'il y a des nouvelles techniques qui sont apparues et entre autres le chauffe-eau solaire auto-vidangeable dont je parlerai ce soir et qui pourra intéresser pas mal de monde.
Voilà, Nicolas Catin nous a rejoint. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, pour les particuliers, comme pour les autres d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'incitations financières pour pouvoir optimiser son habitat, j'imagine, y compris sur ces questions de chauffe-eau solaire.
Alors effectivement, chauffe-eau solaire et puis chauffe-eau thermodynamique, hein, c'est les deux, ce qui a été présenté, hein, c'est les deux entités qu'on va présenter ce soir. Parce que c'est vrai que les particuliers actuellement qui veulent un chauffe-eau performant, écologique, on va dire économique à l'usage, seront confrontés à ces deux choix-là. Et donc c'est sûr que l'idée, pour nous, Agence locale de l'énergie, on n'a rien à vendre spécialement, mais l'idée c'est que les gens se fassent une idée. Effectivement, donc qu'ils puissent décanter un petit peu entre les arguments des pour et des contre pour le chauffe-eau solaire et des pour et des contre pour le chauffe-eau thermodynamique.
Alors, j'aurais un petit mot à dire. Je pense qu'il n'est pas intéressant de mettre en concurrence les différentes énergies renouvelables hein, parce qu'en fait ça va pénaliser tout le monde. Je pense plutôt c'est que justement on ne peut pas placer partout du chauffe-eau solaire et partout du thermodynamique. Je pense que c'est plutôt ce recul qu'il faudra avoir justement pour les gens qui font la prescription sur ce sujet.
Mmh. Justement, quelles sont les limites justement où, dans quel cas ne peut-on pas poser de chauffe-eau solaire?
Alors il faut comprendre que la chaudière elle est sur le toit. Mmh. Donc il faut en plus que cette chaudière soit placée, disons, le plus possible au sud. Donc il y a des cas où on ne peut pas placer donc, ces capteurs. Ça arrive rarement, mais déjà ça c'est une contrainte.
En milieu urbain par exemple?
Oui, en milieu urbain, en milieu aussi zone protégée au niveau architectural. Mmh. Mais enfin bon, on arrive maintenant justement à trouver des solutions avec de l'intégration pour les capteurs solaires thermiques.
En ce qui concerne le système de l'hydrodynamique, il faut creuser, c'est un échange entre le sous-sol et entre les températures d'air qu'il y a au-dessus et en dessous le sol, c'est ça?
Alors ça en fait c'est le système de pompe à chaleur tel qu'on les connaît, où effectivement on a les capteurs qui sont enterrés pour aller capter l'énergie du sol à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Là c'est une technique qui est un petit peu différente, qui techniquement on pourrait le faire pour un chauffe-eau donc pour la production d'eau chaude sanitaire, mais bon là il y a les enjeux financiers, on va pas aller creuser le sol pour simplement mettre un chauffe-eau. Il y a certaines techniques qui peuvent exister, mais la majorité des cas, en fait, on va les récupérer soit dans l'air ambiant, une cave, un cellier, des choses comme ça, soit sur l'air extérieur, donc carrément l'air ambiant externe, qui est très variable tout au long de l'année, hein, donc les performances ne sont pas les mêmes pendant les différentes saisons, soit éventuellement ce qu'on appelle sur air extrait, c'est-à-dire qu'on va venir en fait, se coupler en fait, sur le conduit de la VMC, qui en théorie lui aspire toute l'année de l'air quasiment à température relativement constante, hein, autour de 18-20 pendant l'hiver et 25 voire plus pendant l'été. Et donc là, on a une source d'énergie qu'on peut valoriser. Donc là, c'est assez intéressant. Bon, il y a des questions après de mise en œuvre. C'est sûr que effectivement, l'intérêt, c'est de voir un petit peu là où on peut placer une solution efficace. C'est clairement ça.
Surtout, ce genre d'appareil, le chauffe-eau solaire existe depuis des dizaines d'années. On a beaucoup de recul. Donc là-dessus, on sait très bien comment le faire fonctionner au mieux dans le meilleur rendement. Par contre, le thermodynamique, je posais ces questions ce soir, mais ça existe depuis peu de temps. Il y a une grosse aide quand même de l'État là-dessus et qui ne correspond pas en fait aux résultats pour l'instant. On n'a pas vraiment de résultats. Il y a des coefficients qui sont annoncés, mais ça n'a pas été vraiment vérifié. On est au lieu des fameux coefficients de 4. Dernièrement, on était plutôt sur 1,8 hein, au niveau coefficient de performance. Donc, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir vraiment poussé ce matériel. Ça peut être très bien, mais on l'a un peu trop poussé rapidement parce qu'il y a encore de la recherche à faire, je pense, là-dessus pour avoir une meilleure efficacité.
Ce à quoi fait allusion Pierre, c'est donc notamment les crédits d'impôt hein, qui sont le dispositif d'aide pour les particuliers qui veulent aller sur la maîtrise de des consommations d'énergie et les énergies renouvelables dans leur habitat, qu'on soit propriétaire bailleur ou propriétaire occupant d'ailleurs. Mais donc, en fait, effectivement, il y a un crédit d'impôt de 26% sur le chauffe-eau thermodynamique et un crédit d'impôt de 32% sur le chauffe-eau solaire. Donc c'est relativement effectivement aidé, hein, un tiers pour l'un, un quart pour l'autre. Mais l'idée en fait c'est aussi une façon de mettre en avant ces techniques et de pousser le marché à aller vers des solutions plus efficaces. Donc ce soir effectivement la question, tout à fait Pierre l'a rappelé, hein, c'est pas de mettre en concurrence absolument les deux systèmes, mais c'est vraiment voir un peu les avantages et inconvénients de chacun et voir en fait la complémentarité qu'ils peuvent avoir. Effectivement dans certains cas où le solaire n'est pas possible, le thermodynamique pourra trouver un intérêt, et puis il y a d'autres cas où ce sera effectivement l'inverse.
Entre ces deux technologies, est-ce qu'on peut trouver une réponse à tous les cas de figure, que ce soit de la maison individuelle avec jardin jusqu'à au studio en rez-de-chaussée d'immeuble?
Disons que le solaire, lui, il peut répondre à tous les cas de figure, je dirais justement, de la maison, même de l'appartement, et surtout du collectif. Là, j'aurais une petite parenthèse à faire, c'est que quand même le collectif se développe pour l'instant de 25 à 30% par an. Hein, regardez un peu autour de vous, justement, sur les immeubles, hein, le solaire vraiment est à fond.
Oui. Hein.
Et d'ailleurs, sur la prochaine réglementation thermique aussi, c'est quand même, on verra d'ailleurs ce soir, c'est quand même le champion. Hein, dans tous les cas de figure, c'est lui qui permettra à ce que la maison consomme le moins possible. Hein. Et donc, dans presque tous les cas de figure, on peut utiliser le chauffe-eau solaire, c'est vrai. Je vous ai dit, encore une fois, ça tout dépend de la faisabilité pour poser les panneaux. Et ensuite, il y a un emplacement aussi. Il faut mettre un ballon quand même dans un certain endroit. Donc, il faut un emplacement.
Alors, sur le collectif, on voit bien dans les nouveaux quartiers de Montpellier, vers la nouvelle mairie et tout ça, il y a tous ces immeubles cubiques et très modernes et design. Ils ont effectivement tous des trucs bizarres sur le toit qui sont sans doute des appareillages de ce type. Est-ce que, encore faut-il que les promoteurs qui font beaucoup de profit en fabriquant tous ces immeubles soient... joue le jeu aussi, puisqu'il n'y a pas d'obligation légale si on fabrique un immeuble à ce qu'il soit super au tip-top côté isolation et tout ça.
Jusqu'à maintenant, il y avait deux approches en fait, qui était une approche jusqu'à peu, là, c'est une approche qui était un petit peu, on va dire, proactive de ces gens-là, qui se disaient qu'effectivement, c'était qui pouvaient développer ça dans des immeubles un petit peu d'un standard un petit peu élevé, entre guillemets, et donc ils proposaient, entre guillemets, des solutions un peu innovantes avec à la clé des baisses de charges qui étaient annoncées. Attention, parce que maintenant, de toute façon, il y a une réglementation thermique hein, qui contraint toutes les constructions neuves, et la prochaine qui rentre en vigueur là, pour, entre guillemets, pour tout le monde, y compris donc, les immeubles qu'on évoquait là, donc c'est le 1er janvier de l'année prochaine, donc c'est dans 6 mois, donc c'est vraiment demain. Effectivement, donc là, il y a des contraintes, donc tous les bâtiments devront être, entre guillemets, basse consommation, et donc, quand on a bien baissé les charges d'énergie pour le chauffage avec l'isolation des murs, avec le vitrage performant, une ventilation performante, il reste la part de l'eau chaude sanitaire qui jusque-là était parfois un petit peu l'oublié, et maintenant effectivement il y a une imposition aussi en termes de limitation en fait de ces consommations-là. Donc de toute façon ils sont aussi confrontés eux à des solutions un petit peu innovantes de réduction des charges sur le chauffage sanitaire également, et donc on va y passer dans tous les cas sur la construction neuve, c'est évident.
Alors ce Café Climat a lieu ce soir donc mardi 12 juin de 18h30 à 20h, l'entrée est libre et gratuite, ça se passe à l'ALE qui a changé d'adresse, qui n'est plus sur l'Esplanade mais place Paul Bec à Antigone à Montpellier, un nouveau local, tout va bien ?
Nouveau local, tout va bien, donc on est sous la médiathèque Fellini, c'est aussi l'occasion pour les personnes qui effectivement veulent voir les nouveaux lieux, de venir jeter un œil ce soir, et puis autour d'un verre, et puis d'une discussion à la fois technique et en même temps pratique, sur ces aspects. C'est vrai que c'est un zoom un petit peu ce soir assez, assez technique, hein. Tout le monde n'est pas confronté à ça dans sa vie quotidienne, mais il y a les personnes qui sont intéressées, à titre les étudiants sur l'aspect qui se forment un peu à ces techniques-là, des promoteurs éventuellement, les gens qui sont en tête des projets, et puis les gens qui seront confrontés à ça, je dirais, concrètement d'ici quelques mois dans le cadre de rénovation, de construction neuve.
Voilà, d'autant que ce sera le dernier avant la pause estivale, puisque ça reprendra le 11 septembre avec Petit Bricolage Grosses Économies, un atelier pratique de bricolage sur les économies d'énergie et d'eau. Donc, raison de plus, voilà, pour vous rendre au Café Climat ce soir à partir de 18h30. Nicolas Catin, merci. On remercie aussi Pierre Chalumeau. Et puis donc, à très bientôt sur les ondes de Divergence.
À bientôt.
Au revoir.